MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
Hello, hello, mon ami, j'espère que tu vas bien et que tu as préparé ton cœur pour vivre un instant dans la présence de Dieu. Je crois que tu vas faire un face-à-face avec lui. Il va te parler, il va te challenger, il va te booster, il va t'encourager. Je suis sûr que ça va être un moment d'exception pour toi. J'en suis certain parce que je ne suis pas seul. J'ai un invité avec moi. Et pas des moindres, il s'appelle Jérémy Potin. Bonjour Jérémy.
Bonjour Yanis. Bonjour Yanis.
Comment il est? Je me permets de te le dire comme ça parce que tu es à la Réunion.
C'est ça, elle est bien, soleil poque un peu, le soleil chauffe un peu, mais ça va.
Eh bien, envoie-nous un peu de soleil ici au Canada, en tous les cas, nous sommes heureux de te recevoir sur l'émission Face à Face. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, tu es pasteur, tu es conférencier, tu es écrivain, j'en ai dit pas mal, mais tu es aussi papa, marié, et puis vas-y, dis-nous un peu plus.
J'ai 37 ans, et puis je suis marié, j'ai 3 enfants, on vit à l'île de la Réunion. Je suis né à l'île de la Réunion, mais après je suis parti puis au Canada, en France, où j'ai fait mes études dans une école biblique au Canada. J'étais pasteur au Canada, en France, à Paris, à Montpellier, aussi à La Réunion. Et puis depuis 2 ans, je mets une emphase aussi plutôt sur les conférences de guérison. Et en même temps, écrivain. J'ai déjà écrit 3 livres et je suis en train d'écrire le 4e. Donc le but de ce que Dieu me demande de faire, c'est d'amener des enseignements pratiques pour que les gens puissent vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Donc voilà un petit peu rapidement ma présentation.
Alors il y a la guérison, il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur?
Ouais, il y a la guérison, la délivrance, et puis la vie de l'esprit, la vie avec le Saint-Esprit. Donc mon premier livre, c'est un livre sur les rêves. Donc j'ai beaucoup, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était vraiment que là-dessus, où Dieu m'avait demandé de restaurer la culture du rêve dans la vie de son peuple. Donc parler des rêves, et de cela est sorti un livre. Et puis tout ce qui touche à la vie de l'esprit, sur les dons spirituels, ça touche vraiment à cette vie avec le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que quand on fait des conférences, on met vraiment l'emphase sur la guérison, les miracles et les dons du Saint-Esprit. Et le but, c'est d'équiper le peuple de Dieu à aussi vivre ces réalités-là.
Alors tu reviens de Madagascar. Il s'en passe des belles choses à Madagascar. Est-ce que tu as un petit témoignage avant de poursuivre cette émission? Est-ce que tu as vécu quelque chose de particulier là? Tu as quelque chose de frais à nous partager, histoire d'encourager ceux qui nous regardent?
Oui, on a fait ça s'appelait Miracle et Guérison. Donc, on avait loué le Palais des Sports le samedi de la semaine dernière. Et puis, toute la semaine, on a fait plusieurs conférences. Je te dirais que peut-être 2 témoignages rapides où j'ai vu des choses incroyables, c'est qu'il y avait un moment donné où je priais, je sentais qu'il y avait une personne qui avait un problème au dos, et donc j'ai donné cette parole de connaissance là, et en disant: si vous avez de la douleur, est-ce que ça vous concerne, levez la main. Et je montrais un petit peu où était cette douleur là dans le dos, et puis en fait il y a une personne qui a levé la main, je priais pour elle, il y avait d'autres personnes aussi, et en fait elle est venue témoigner. Et en fait, il y a des personnes qui étaient là pour le valider aussi ce qu'elle avait dit. Elle avait une tumeur cancéreuse dans le dos et qui était visible. Et donc, du coup, elle était suivie par les médecins et autres. Et alors que je priais pour les mâles de dos, la tumeur cancéreuse a complètement disparu. Et c'était juste incroyable. Et puis, on a eu une deuxième personne comme ça qui avait aussi une tumeur cancéreuse dans le ventre. Ça crée bien sûr de la douleur, ça crée toutes sortes de choses. On a prié, ça a disparu. Une femme qui avait un goitre. J'ai juste posé les mains sur elle, il y avait des gens qui étaient tout autour et ça a complètement fondu, comme un ballon qui se dégonfle. Je te dirais que le plus beau des témoignages, pour moi là, ça a été vraiment le soir, c'était finalement des dimanches soirs. Toute la semaine, on a prêché sur les miracles, sur la guérison, que Dieu confirme sa parole, et puis toutes sortes de choses s'est passées, puis on avait complètement terminé. On est parti manger avec toute l'équipe. Et là, on vient me voir alors qu'on est complètement épuisé, c'est fini, on relâche tout. On veut juste se reposer. Et puis, il y a quelqu'un qui vient me voir au restaurant et qui me dit, écoutez, il y a une voiture qui est devant ils attendent que tu finisses ton repas pour au moins que tu pries pour eux. Et c'était une femme qui avait un accident, qui a fait un accident, son tibia était complètement ouvert. Ça a été bien sûr refermé, mais il y avait une plaque de métal. Ils ont enlevé un morceau d'os et son pied était comme recroquevillé sur lui-même. Et les médecins avaient dit que cette fille-là ne pourrait pas du tout marcher à cause de cet accident-là. Elle ne pouvait pas poser le pied par terre. Et donc, c'était un jeune, c'était un couple fiancé qui était fiancé. Puis, donc, je suis descendu pour prier, descendu les escaliers du restaurant, puis entré dans sa voiture sur le siège arrière parce qu'elle pouvait pas marcher. Et donc, je me suis assis à côté d'elle et puis j'ai demandé est-ce que je pouvais prendre son pied, le poser sur moi, et j'ai commencé à prier. Et puis, il y avait une équipe qui m'a suivi pour voir ce qui se passait. Et puis, on a commencé à prier pour que la jambe qui était complètement décalée et qu'elle ne pouvait pas poser le pied puisse se redresser. Et à ce moment-là, on a prié, le pied s'est complètement redressé. Alors j'ai dit, Seigneur, s'il manque un morceau d'os, là, suite à cette multiple fracture, tu recrées l'os dans le nom de Jésus. Et son pied s'est complètement décalé. Le péroné qui était aussi décalé s'est remis en place. Et elle est sortie de la voiture complètement étonnée et elle s'est posée sur ses deux pieds alors que les médecins avaient dit qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Et Dieu a confirmé sa parole. C'était juste incroyable. Et on a vu, je crois que dans la première soirée, juste la première soirée, où il y avait 1500 jeunes, il y a eu plus de 200 guérisons vérifiables. Je parle bien de vérifiables, les choses, il y avait quelque chose avant et après. Donc je pourrais parler des heures de ça, mais vraiment Dieu a confirmé sa parole avec puissance et amour.
À Madagascar. Dieu est bon. Et il se passe toujours des choses quand tu viens dans la présence de Dieu. Il se passe toujours quelque chose de merveilleux, ce qui est anormal pour l'homme et normal pour Dieu. Un miracle, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Mais en réalité, Dieu se plaît toujours à accomplir des miracles dans la vie de ses enfants. Et tu dois t'attendre à un toucher de Dieu. Je crois qu'au travers de cette émission, Dieu va te parler, Dieu va te toucher. Peut-être que Dieu va te libérer, peut-être que Dieu va te guérir. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'il va faire. Dis avec moi, il va faire. Et je veux juste prier pour toi et que tu puisses préparer ton cœur à entendre ce que Jérémie a à nous partager. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu l'as convoqué dans ta présence et je crois qu'au travers de cette émission, tu vas répondre à un besoin. Je crois que tu vas faire quelque chose dans sa vie, comme tu l'as fait au travers de ces personnes qui se sont approchées de toi à Madagascar. Tu as accompli des miracles dans leur corps et je crois que tu vas faire au-delà, Seigneur, de tout ce qu'imagine ton enfant. Je crois que tu vas opérer de grandes choses dans sa vie. Alors, je remets ces instants précieux, ces moments de convocation avec toi entre tes mains. Et je te demande de parler et de toucher. Amen. Alors, Jérémie, tu as grandi sur une île que j'apprécie, j'affectionne. Mais alors, la Réunion porte bien son nom parce que les gens sont tellement merveilleux. Et ils sont merveilleux et la nourriture est tellement succulente. Mais, parce qu'il y a un mais, au-delà de cette image carte postale, il y a d'autres réalités. Et quand je t'entends parler, tu me parles de délivrance, tu me parles de guérison. C'est d'ailleurs des sujets qui sont sur ton cœur, ça s'entend, ça se voit, ça se ressent. Et si tu es comme moi, en général, on ne met pas en avant des choses qu'on ne porte pas. Peut-être que tu as eu affaire dans ton enfant, je ne sais pas, mais j'aimerais en savoir plus. Pourquoi, par exemple, tu as écrit un livre qu'on présentera tout à l'heure sur le combat spirituel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué dès ton jeune âge ou à un moment donné de ta vie? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet?
Oui, bien sûr. Moi, je suis né dans une famille, tu sais comment fonctionne la Réunion, où tu sais, il y a toujours, un terrain familial, et il y a plusieurs maisons avec les oncles et les tantes qui vivent là. Et puis, ma grand-mère avait construit une maison, elle avait vécu dedans, et puis elle a déménagé, elle a construit sa maison juste derrière, et puis mes parents ont vécu dans cette maison-là, sauf qu'elle était connue parce qu'elle était une sorcière, mais une vraie sorcière. En fait, pour donner peut-être une idée aux gens de ce qui se faisait chez moi, c'est que sur le devant notre maison, c'était tout en béton, il y avait le pentacle avec le cercle magique où elle mettait chaque enfant sur chaque branche et puis elle prenait par exemple une poule et elle partait complètement en transe et elle tuait la poule de ses propres dents pour que le sang coule et qu'elle mette le sang sur chacun de ses enfants. Donc il y avait des pactes démoniaques avec du sang qui étaient faits, des alliances avec des autels et ce genre de choses. Donc j'ai grandi là-dedans, dans une maison hantée, où le soir, il y a des gens qui ouvraient la porte, qui ouvraient les placards, qui faisaient tomber toutes les assiettes, qui cassaient tout. Et puis, moi, j'ai été terrifié. On vivait très pauvrement, hein, j'avais pas de chambre. Hein, mes frères et sœurs et moi-même, en fait, on dormait dans le couloir entre la cuisine et le salon. Et puis moi, j'allumais des fois vite la lumière, j'avais terriblement peur, et il y avait strictement rien, alors que on entendait toutes sortes de bruits, des gens qui marchaient sur le toit. Bref, il y avait quand même énormément de sorcellerie là où j'ai grandi.
Tes parents étaient où ?
Mes parents étaient dans la maison aussi. Alors, ce qui était particulier, c'est qu'on ne ressentait pas tous la même chose. C'est-à-dire que certains, mes frères se sentaient un peu mal, ils sentaient qu'il y avait une présence qui n'était pas bien. Ma mère, elle voyait les choses. Et puis, par contre, moi, je les ressentais et je les voyais. Donc, à un moment donné, moi, j'ai grandi avec ça. Il m'est arrivé de voir des démons comme je te vois, en fait, tu vois. Donc, ça a été ça. J'ai grandi là-dedans, en fait.
Mais tes parents étaient chrétiens ou pas?
Ouais. Alors, à un moment donné, mes parents se sont convertis. Et donc, c'est vrai que ça a quand même pas mal diminué. Mais il y avait quand même certains droits que l'ennemi avait sur cette maison et autres. Mais ça avait pas mal... Ça avait pas mal changé. En fait, ils avaient commencé à prier pour la maison et puis on avait vu un vrai changement spirituel au niveau de la maison. Mais mes parents étaient chrétiens à ce moment-là, effectivement.
D'accord. Donc toi, tu grandis dans ce contexte pas un peu d'ailleurs, c'est bizarre. Tu sais, quand on était enfant, il y a une maison hantée, tu n'as pas envie d'y mettre les pieds. Donc toi, tu grandis, tu dors, tu vis dans une maison hantée. Et est-ce qu'à un moment donné, tu prends conscience de ça? Ça impacte ta vie quand tu deviens, par exemple, adolescent? Comment tu te construis avec tout ça?
Ben, à un moment donné, ça s'est calmé. C'est-à-dire que je les ressentais, mais je les voyais, je pouvais les voir. Mais à un moment donné, j'ai appris à faire un peu off dans mon esprit pour occulter ce que je voyais, pour ne pas voir ce que je voyais. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. À ce moment-là, ça s'est intensifié. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à avoir des problèmes où là, j'étais pas tranquille la nuit. On avait pourtant déménagé, on est parti vivre en France, à Toulouse, mais je n'étais pas tranquille. Et là, j'ai vécu toutes sortes de choses assez difficiles la nuit ou même en journée, avec des attaques assez claires. Enfin, même avant ma conversion, dès que j'ai commencé à me dire pourquoi pas prendre au sérieux la vie avec Dieu, parce que j'avais fait ma propre vie, je faisais du rugby, j'aimais ça, j'avais ma propre vie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, à l'âge de 15-16 ans, j'avais quand même un amour pour Dieu et j'ai voulu me tourner vers Dieu. Et à ce moment-là, les choses se sont un peu compliquées.
D'accord. Ouais, effectivement. Tu as le souvenir de quelque chose qui t'a marqué fortement?
Oui. En fait, il y a des moments où il m'est arrivé à plusieurs reprises, pas simplement de ressentir les esprits impurs ou les démons ou d'autres démons avec plus d'autorité, mais c'était il y a des moments où il y avait comme un flash, comme mes yeux qui se fermaient, je voyais le monde spirituel et je voyais des démons qui se rapprochaient de moi et je m'en souviens que j'avais 15-16 ans. Et il s'est présenté devant moi. J'ai eu la peur de ma vie. Je veux dire, je vais être honnête là. J'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. J'ai pris 6 mois avant de me remettre à cet endroit-là dans ma chambre pour prier. J'ai eu très peur. Et il m'a proposé de dire, écoute, si tu nous suis et on te donne ce que tu veux. Et en fait, il m'a fait une proposition, tout simplement. Hein. J'ai senti cette proposition-là qui était claire d'impact. Et j'ai refusé. Et je m'en souviens encore d'à quoi il ressemblait, parce que chaque démon ressemblait à des choses différentes. Et je sais que quelques années plus tard, je l'ai vu dans un dessin animé japonais. Et là aussi, j'ai eu très très peur de dire, ok, dans les dessins animés, des fois, ils sont quand même mal inspirés, quoi.
À quel moment?
Donc ça m'avait marqué.
Tu fais le switch. À quel moment tu fais le switch? À quel moment tu produis? Il y a un changement dans ta vie?
En fait, je suis parti dans un camp chrétien. En fait, non. Pour la vraie histoire, c'est ma mère m'a obligé à aller dans un camp chrétien. J'avais normalement plusieurs matchs de rugby Donc moi je viens de Toulouse, donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même la ville du rugby. Et puis c'était l'été, je devais aller, ma mère m'a dit non, je t'oblige à aller dans un camp chrétien. Et c'était, je ne sais pas si tu connais ce camp, c'est le camp de Rehoboth. Donc je suis parti à Rehoboth, dans ce camp chrétien pour des jeunes. Et puis j'ai été insupportable pendant 3 semaines. Et puis à la 3e semaine, on était avec une bande de jeunes. J'étais avec une bande, peut-être on était 5 ou 6, un peu les têtes brûlées du camp chrétien. Et puis tout d'un coup, un soir, on se met à parler. Puis il y en a un qui me dit, tu sais, moi... quand des fois je suis dans ma chambre, j'ai comme une image où je vois une planète et je pose mon doigt dessus et je me vois dans ce pays en train de parler de Jésus. Et puis chacun raconte un petit peu ce qu'il a sur le cœur. Et en fait, on était entouré de ministères d'eau qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus, quoi. Et à 1h du matin, on est parti frapper à la porte du pasteur. Et puis lui qui nous supportait pas trop parce que vraiment on mettait un peu la pagaille dans ce qu'il faisait dans ses réunions. Et on lui a dit, on veut être baptisé du Saint-Esprit. On ne l'a pas dit, on veut donner notre vie à Jésus, on a dit, on va être baptisé du Saint-Esprit. Alors, il nous a dit, mettez-vous à genoux, là, puis je vais prier pour vous. Puis, nous, on a donné notre vie à Jésus. 1 heure plus tard, dans ce moment de prière, on était baptisé du Saint-Esprit. Il restait 3 jours pour ce camp. Et puis, pendant 3 jours, on n'a fait que prier, adorer Dieu. Et je donnais ma vie comme ça, dans un camp. Et je remercie mes parents d'avoir insisté, de m'emmener dans ce camp chrétien. Et à partir de là, tout a... une nouvelle vie a commencé, ouais.
Alors, tu as écrit un livre sur le combat spirituel.
Oui.
Tu parles de quoi? Il y a vraiment un verset qui a marqué ton cœur, que tu utilises comme référence. Je sais qu'Éphésiens 6, par exemple, est un verset qui parle beaucoup. C'est quoi ce verset que tu mets en avant au sein de ce livre? Et c'est quoi les principes que tu mets en avant et les conseils également que tu peux donner à ceux qui nous regardent là actuellement?
Bien sûr. En fait, quand j'ai écrit ce livre, il y a une phrase qui a résonné dans mon cœur. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parlait pour me donner son go pour que j'écrive ce livre. Il m'a dit « L'ennemi est prêt à perdre des batailles pour faire croire que le mensonge auquel on croit est vérité. » Et c'est là où moi, dans à un moment donné, quand j'ai grandi dans l'Église, il y avait des choses qu'on nous enseignait. Et puis, en regardant dans les Écritures, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et je ne dis pas que toutes les églises sont comme ça, loin de là, il y a des très bonnes églises avec des bons enseignements, mais par exemple, tu sais, moi on m'a enseigné par exemple pour l'armure du chrétien, chaque matin il fallait les déclarer, tu sais, je mets le casque du salut, je mets le bouclier de la foi, je prends l'épée de l'esprit, et c'est comme ça qu'on m'avait enseigné la parole de Dieu. Et puis la réalité est que quand je le faisais, et je suis sûr que je ne suis pas tout seul, et si les gens qui regardent cette émission le savent aussi, à un moment donné tu oublies un ou deux, tu dis « ah ouais, j'ai oublié les chaussures, j'ai oublié la cuirasse ». Et puis tu reprenais ta Bible, et puis mais je voyais pas de différence quand je le faisais et quand je le faisais pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas en étudiant, je me suis dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'on s'arme de la mûre du chrétien. Et puis des fois, il faut se poser les bonnes questions. Tu sais, par exemple, on peut dire, Jésus-Christ est mort sur la croix, et il est ressuscité, et il a dépouillé l'ennemi. On sait que Satan n'a plus d'autorité. On sait qu'il a été dépouillé, livré en spectacle. Alors, si c'est vrai, pourquoi parle-t-on encore de combat spirituel? Et ça, c'est important de le comprendre, parce que finalement, est-ce que je dois me battre spirituellement pour la victoire ou à partir de la victoire de Jésus? Et quand on parle de combat spirituel, pourquoi on doit combattre si Jésus a tout remporté? Et c'est là où ça va être important de revenir à ce que la parole de Dieu déclare, bien comprendre sur quel champ de bataille on est. Parce que je trouve que le combat spirituel est un sujet très nébuleux. Et on déclare des choses, on parle de combat spirituel, mais c'est hyper nébuleux. On peut dire « Amen, Alléluia », mais au fond, on n'arriverait pas forcément à l'expliquer, le combat spirituel. Et c'est là où mon désir, ça a été de dire « Ok, revenons à ce que déclare la parole de Dieu et pour vivre une vie chrétienne victorieuse. » Moi, je faisais partie de ces jeunes, 17, 18 ans. Je me réveillais très tôt le matin et j'allais sur la plus haute montagne de la ville pour prier de minuit à 6 heures du matin parce qu'on me disait que c'est là sur la montagne, c'était là la forteresse de la ville. Eh ben, une forteresse dans la parole de Dieu, c'est pas une montagne, c'est pas le lieu le plus élevé. Et c'est là où, quand on plonge nos regards dans les Écritures, on se dit, OK, en fait, l'ennemi peut tendre des pièges comme cela. Et est prêt à perdre des batailles. Et nous, on croit que c'est vérité, ce qu'on est en train de vivre, alors qu'il nous laisse tout simplement des fois dans le mensonge et perdurer dans le mensonge. et parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Et mon but à travers ce livre, c'est de dire revenons à ce qui déclare la parole de Dieu pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Le but de ce livre, c'est d'emmener la vérité sur le combat spirituel et puis sur la délivrance aussi, sur le discernement des esprits. Voilà.
Alors, je t'entends. Voilà, j'acquiesce, hein, je suis OK avec toi.
Ouais.
Mais je me mets aussi à la place de la personne qui peut-être est en train de lutter, qui est enfermée dans une sorte de forteresse psychique, mentale, qui est enfermée dans le péché, qui aime Dieu, mais qui n'arrive pas à expérimenter la pleine liberté que Christ lui offre. Moi, je faisais partie de ces personnes, hein, et j'entends ce que tu dis, mais ce que j'aimerais vraiment que tu fasses, Jérémy, si tu le permets, c'est en quelques minutes, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes malheureusement, tu devais parler à une personne qui a ce profil-là. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Au-delà des mots, qu'est-ce que tu lui conseillerais en étant pragmatique?
En fait, le combat spirituel, le premier niveau et qui est quand même le plus important, tout commence dans les pensées. Il y a 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. L'apôtre Paul parle et dit « car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et donc là, on parle de forteresses. L'armure du chrétien est là pour renverser des forteresses. Mais qu'est-ce que des forteresses? Au verset 5, c'est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » En fait, le vrai combat spirituel déjà commence dans la pensée. Et les forteresses dont on parle des fois quand on parle de combat spirituel se trouvent dans nos pensées. Alors qu'est-ce qu'une forteresse? Et c'est là où quand les gens luttent avec toutes sortes de choses, en fait tout commence ici, tout commence dans les pensées. Une forteresse, c'est croire à un mensonge, à un faux raisonnement. Et quand on regarde le mot forteresse, parce que la Bible dit « vous connaîtrez la vérité vous rendra libre », donc le but c'est de parler de la vérité de la parole de Dieu ici. Le mot forteresse, si on devait aller un peu vite dans sa traduction, ça serait quelque chose sur laquelle on s'appuie, toute chose sur laquelle on s'appuie. Et en fait, ce mot veut dire aussi partage de propriété. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que quand je vais commencer à croire quelque chose qui n'est pas de la parole de Dieu, qui est un faux raisonnement, qui est un mensonge que l'ennemi peut me donner, à ce moment-là, je m'appuie sur quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, donc qui est un mensonge. Et la Bible nous dit qu'il y a un partage de propriété qui se fait. Et à ce moment-là, l'ennemi a accès à nos pensées. Et il peut commencer à influencer nos pensées parce qu'il a comme une forteresse, quelque chose où il peut se cacher dans nos pensées. Et si l'ennemi peut accéder à nos pensées, il peut accéder à nos émotions. Et c'est parce que la Bible dit « il est tel les pensées de son âme ». Et si l'ennemi peut accéder à nos émotions, l'ennemi peut accéder aussi à nos actions. Et là, c'est important. Tu sais, Yannis, si je devais donner un texte pour moi qui reflète beaucoup le combat spirituel, on ne va pas forcément le lire, mais ça se passe dans Genèse chapitre 3. Tu sais où Satan vient tenter Ève. Elle va dire « oui, mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Ce que va faire Satan, c'est qu'il va remettre en question la parole de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Ève va croire en ce faux raisonnement. Elle va croire à ce mensonge. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une forteresse qui va se créer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle va commencer à croire en ce mensonge, il y a quelque chose que Ève vit qu'elle n'a jamais vécu. La Bible n'en nous en parle pas. Il est écrit dans le verset 6, Genèse chapitre 3, verset 6, il est écrit « La femme, donc on parle de Ève, vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. » Ève n'avait jamais reçu dans son cœur ces pensées-là. Elle savait que l'arbre était interdit. Mais elle commence à lutter avec des pensées, enfin, elle ne lutte pas longtemps malheureusement, mais elle a des nouvelles pensées qu'elle n'a jamais reçues. Elle voit que l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle commence à finalement être tentée. Et en fait, on aurait pu se dire, tu sais, si on veut faire la relation d'aide, ben, tu devrais t'éloigner de l'arbre. Et c'est une bonne chose. Hein. Mais la réalité, c'est que tout a commencé ici. Elle a remis en question la parole de Dieu, ce que Dieu lui avait dit. Et elle a commencé à croire des mauvaises choses de ce que Satan lui avait dit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? La Bible dit qu'elle prit le fruit et elle en mangea. Et en fait, si tu contrôles tes pensées, à ce moment-là, tu contrôles tes émotions. Et si tu contrôles tes émotions, tu contrôles tes actions. Et tout commence de là. C'est pour ça que la Bible parle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont là pour renverser les forteresses, tous les raisonnements qui se lèvent contre la hauteur de Dieu. Et si on comprend cette réalité-là, déjà, on prend le problème à la racine. Et déjà, ça va enlever énormément de problèmes que les chrétiens vivent.
C'est vrai.
Parce que des fois, on veut résoudre des problèmes de comportement, alors que ce ne sont que le fruit, finalement, d'émotions et de pensées. Des fois, les actions ne sont que l'enfantement de nos pensées.
Jérémy,
donc, il faut traiter ça à la racine.
On aurait dû faire un séminaire avec toi. Voilà. Spécialement.
Je suis désolé.
Tellement intéressant de t'entendre. C'est tellement vrai et je te rejoins à 100% parce que je l'ai vécu comme je te l'ai dit et c'est vrai ce que tu dis. Tout commence par la pensée. Maintenant, il nous reste pas beaucoup de temps. Je veux que tu prennes ce temps pour prier pour les gens, pour ceux et celles qui ont besoin vraiment d'expérimenter la pleine liberté dans leur vie. S'il te plaît, Jérémy, est-ce que tu peux prier?
Parfait. Bien sûr. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette émission. Et je prie, Seigneur, de les remplir de ta présence, là où ils sont, dans leur voiture, dans leur maison, peu importe où ils se trouvent. Je relâche la puissance de Dieu sur votre vie, sur ta vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Et je prie à ce que la puissance de Dieu soit sur toi. Si tu as besoin de guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, je déclare maintenant que la puissance de Dieu soit sur toi. Et j'ordonne à toute maladie, à tout dysfonctionnement, à toute douleur de te quitter dans le nom de Jésus. Et je libère sur ta vie la guérison divine, la puissance de Dieu. Que la présence de Dieu s'intensifie sur ta vie. Et tous les combats spirituels que tu vis, je prie à ce que Dieu puisse t'éclairer, te montrer les stratégies de l'ennemi afin que tu ne puisses pas laisser à Satan l'avantage, comme dit l'apôtre Paul, l'avantage sur nous. Saint-Esprit, tu viens les saturer de ta présence. Tu viens les emmener à voir les pièges de l'ennemi afin de ne pas tomber dans ces pièges-là. Tu viens les éclairer par ta parole. Tu viens leur donner une parole dans leur cœur. Seigneur, tu viens remplir chaque personne qui regarde cette émission de ta présence, de ton onction, dans le nom puissant de Jésus. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.
Merci. Amen. Jérémy. Ton livre, tu as un site internet. Comment? C'est jérémypotin.com.
C'est ça, exactement. jérémypotin.com, une chaîne YouTube aussi, où je fais des lives. Et puis le livre Combat spirituel, les gens peuvent tout simplement le télécharger, les 60 premières pages gratuitement aussi sur mon site, s'ils veulent ne serait-ce que de le découvrir avant de se le procurer, c'est possible aussi.
D'accord. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Oui, moi j'encourage vraiment chaque personne à être comme des Béréens. La Bible parle dans les Actes des Apôtres qu'ils entendaient ce que l'apôtre Paul disait. Mais ils allaient regarder dans les Écritures pour savoir ce qu'ils disaient était vrai. Et à ce moment-là, ils ont cru. Et je crois que nous sommes appelés à des Béréens. Je vous encourage à toujours regarder ce qu'on vous enseigne, ce que vous entendez. Regardez si ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que si la vérité rend libre, comme dit la parole de Dieu, alors le mensonge emprisonne. Donc faites attention et je vous encourage vraiment à être des personnes de la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, afin de vivre cette vie de liberté.
Merci Jérémy, nous saluons la Réunion, les Réunionnais, en tout cas tu les salueras de ma part, nous saluons également l'Église. Tu as oublié, je l'avais dit, que tu étais marié et père de deux enfants, c'est ça? Et
trois enfants.
Trois enfants, et nous saluons toute ta famille. Que le Seigneur te bénisse Jérémy, et puis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse,
merci.
Et puis je vous dis à la prochaine, face à face. Ciao!
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.